6h04, jeudi 15 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, ciel généralement nuageux, 8 degrés. C'est une journée de pluie. C'était prévu. Ça se confirme. Donc, dans un premier temps, 10 à 20 mm de pluie, des vents de 20 à 30 km/h au cours de l'après-midi. Et le maximum prévu, 10 degrés. On ajoute de la pluie en soirée. Toujours 10 mm additionnels, minimum de 4 durant la nuit. On termine la semaine vendredi avec de la pluie intermittente, quantité un peu plus modérée, et le maximum prévu, 8 degrés, des averses également tout au cours de la journée. Et samedi, ça demeure nuageux, 8 degrés, et dimanche, nuageux, 12 degrés. Le retour du soleil est prévu seulement pour lundi, et 15 degrés. Je regardais sur des prévisions à long terme, là, des journées à 20 degrés, 18-20 degrés, comme on a connu. Il n'y en aura pas tant que ça d'ici la fin du mois d'avril. Donc, du temps gris pour la fin de semaine, mais au moins pas de pluie de prévu pour l'instant. Pas mal de choses ce matin. Je vais commencer par cette nouvelle qui est assez préoccupante. Radio-Canada qui a fait une enquête sur les protocoles utilisés pour mesurer le gaz carbonique dans les écoles, autrement dit, mesurer la qualité de l'air. Et on nous explique ce matin, et c'est assez sérieux là, comme accusation, que le protocole n'a pas été respecté dans la majorité des tests. Souvenez-vous que l'idée, c'était de voir quelle est la qualité de l'air à l'intérieur des classes. Parce qu'on sait que, un, il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles, qu'il y a des écoles qui sont mal ventilées, des écoles où la qualité de l'air n'est pas bonne. On a eu tout le débat sur les purificateurs, je ne veux pas repartir ça ce matin. Mais ce que Radio-Canada affirme, c'est que des fenêtres ouvertes plus longtemps que recommandées, des classes où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'élèves, des tests refaits plusieurs fois, tant et aussi longtemps que les résultats ne sont pas bons. Donc, dans 61 % des cas étudiés, la façon dont les tests ont été réalisés a tiré vers le bas les résultats des mesures de la qualité de l'air demandées par le ministère de l'Éducation. Et on parle des centres comme Montréal et Québec. Et dans ce reportage, on vous donne un paquet d'exemples. Je trouve ça assez sérieux. Le ministère de l'Éducation a l'air de vouloir nuancer en disant « Non, non, on a suivi les protocoles puis les résultats sont bons. » Mais si c'est vrai que pour avoir des résultats passables, puis je vous invite à lire ça, là, tu laisses les fenêtres ouvertes plus longtemps, tu t'assures qu'il n'y a pas d'élèves dans la classe, que bref, tu as une réalité qui n'est pas celle du vécu quotidien des profs et des élèves. C'est assez sérieux, là. Alors, qui a intérêt à faire des résultats complaisants? Là, je suis poli quand je dis ça, là. C'est d'avoir une réaction du ministère de l'Éducation. Parce qu'on le sait, depuis le début, encore, ça c'est, quand je dis le début, là, la troisième vague surtout, là, mais les milieux de travail puis les milieux scolaires sont des milieux où on retrouve le plus d'éclosions. C'est le premier commentaire ce matin. Le deuxième, ça concerne AstraZeneca. Je vous le dis depuis le début de la semaine, la vaccination, de façon générale au Québec, va bien. Les chiffres, pas ceux d'aujourd'hui, mais de la veille, c'est au-delà de 60 000 doses qui ont été administrées et on est nettement en avance là, en termes de première dose pour un citoyen sur les autres provinces. Bref, ça va bien. Là où on a un problème à Montréal, c'est AstraZeneca. Les gens de 55 ans et plus étaient au rendez-vous la semaine dernière. Ils le sont pas mal, me dit-on, ailleurs au Québec. Mais à Montréal, là, disons dans le Grand Montréal, il y a pas mal de plages de rendez-vous et du 100 rendez-vous de disponibles. Hier, le ministre Christian Dubé le disait, venez-vous-en. Puis je reçois des courriels, moi, de centres de vaccination, 10-30, ailleurs, on a de la place, venez-vous-en. Et ça arrive alors qu'il y a encore une fois des interrogations sur AstraZeneca. Danemark qui devient le premier pays à dire on ne l'utilise pas. Vous avez Johnson & Johnson, où on a stoppé la production, puis on dirait un peu là, avant de commencer à distribuer ça, aux États-Unis et en Europe. On se donne notamment une semaine de plus pour être capable d'avoir peut-être une meilleure lecture. Et le Canada maintient sa politique. Et on va parler avec quelqu'un de Santé Canada tantôt, là, de dire pour les 55 ans et plus, ça va. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire probablement au niveau de la vaccination. Moderna, le Globe and Mail, dit ce matin que les stocks entrent difficilement. ça finit par arriver, mais il y a toujours des délais. Et que ça affecte la vaccination à un point tel, je cite le Globe and Mail, on a dû annuler, reporter des rendez-vous de vaccination à travers le Canada. Alors, c'est sûr que c'est une grosse machine, la vaccination. On est très dépendant de ce que les compagnies envoient. AstraZeneca, là, il y a encore beaucoup, beaucoup de doses entre les mains du gouvernement, puis on veut vacciner les gens. On sait qu'il y a eu des cas de caillots, là, caillots sanguins. Ça demeure marginal. Puis quand on l'administre aux gens de plus de 55 ans, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Il y a un cas au Québec, là, de quelqu'un qui a eu des problèmes. La bonne nouvelle, c'est que la personne a été traitée puis est retournée chez elle. Puis pendant ce temps-là, vous regardez aux États-Unis et en Europe, eux ont pas mal décidé que AstraZeneca puis Johnson & Johnson m'ont intéressé. Puis dans le cas de Johnson, il y a eu des problèmes aussi, non seulement de qualité potentielle, mais aussi des problèmes d'approvisionnement. Ce qui fait que l'Europe a annoncé qu'elle mettait sa confiance et son argent dans Pfizer. Et pas que pour les doses actuelles, là, la première dose et la deuxième dose, mais je vous dirais pour les mois à venir, si jamais il faut y aller avec une autre vague de vaccination à cause des variants. Et moi, la question que je pose, là, puis on a beau nous dire, vous savez, c'est pas les mêmes sources d'approvisionnement. Aux États-Unis, notre voisin, ça vaccine avec Pfizer et Moderna à la planche. L'Europe se tourne vers Pfizer. Est-ce qu'on va être capable de maintenir pour le Canada les arrivages? On voit que Moderna, là, c'est, il y a des délais qui s'ajustent. Et l'autre chose que je veux absolument souligner ce matin, c'est que autant on a de la misère, il y a 700 000 personnes de 60 ans là, qui n'auraient pas été vaccinées et plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui hésitent, sont pas certains, veulent pas. Il y a toujours un pourcentage de gens qui refusent la vaccination. Puis comme je vous le disais, dans certains milieux, l'info passe difficilement. Il y a toutes sortes de barrières. Puis en parallèle, vous avez des gens qui veulent se faire vacciner, mais selon les critères de la santé publique, on n'est pas rendu à eux. Puis là, j'ai le déluge de courriels depuis hier de personnes immunosupprimées. Puis il y a deux cas ce matin dont je vais vous parler. D'abord, on va parler avec Mme Mélanie Hull. Sa fille Liana souffre d'une maladie grave, amyotrophie spinale de type 2. Elle est relativement autonome, active, mais elle est sévèrement atteinte aux poumons. Et quand le ministre a dit, on vaccine les personnes qui ont des maladies chroniques, tout le monde a pensé, comme ça, vite, c'est notre tour. C'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué. Il faut que ça passe par l'hôpital, il faut que ça passe. Et elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a voulu prendre un rendez-vous par Clic Santé, puis là, elle s'est rendue compte que ça marchait pas. On lui a dit de parler à son médecin de famille, d'aller à l'hôpital. Le médecin de famille lui a dit, ce sont simplement les gens dans les hôpitaux. Les spécialistes disent, on n'est pas au courant, on renvoie ça au médecin. Tu comprends, là, tu deviens la balle de ping-pong. Et comme elle n'est pas traitée à l'hôpital comme telle, elle n'est pas sur la liste. La pharmacie près de chez elle ne vaccine pas. Elle est en estrie, mais sa fille a des traitements en Montérégie. Voyez-vous, là, quand c'est compliqué dans la machine, puis c'est quelqu'un qui est vulnérable, il ne faut pas qu'elle attrape la COVID. Et là, malheureusement, donc, elle ne peut pas être vaccinée. Un autre auditeur qui m'a écrit également, M. Dillon, son fils souffre d'un syndrome cerveau-poumon-thyroïde, qui est une maladie rare des poumons en plus, donc hypothéqué. Son médecin a signé un document pour lui permettre d'accéder à la vaccination rapidement. Et là, on lui dit que son fils n'est pas qualifié parce qu'il n'est pas hospitalisé. Fait qu'il est sur une liste d'attente, même s'il est lourdement handicapé, que tout le monde. Alors, je pourrais vous en sortir une liste comme ça. Et là, je comprends que la réponse de Québec, ça va dire, mais nous, on suit les priorités de la santé publique, puis on n'est pas rendu là. On commence par vacciner les malades chroniques qui sont en traitement de cancer, des gens qui sont déjà hospitalisés, bref. Alors que dans les hôpitaux, pas certain encore que tout ça baigne dans l'huile, là. Et je comprends l'angoisse de ces parents-là qui ont des enfants hyper vulnérables, qui sont peut-être pas en contact avec tant de monde que ça, mais quand même. Mais qui sont pas mal stressés. Parlons des hôpitaux quand même encore et de la situation de délestage. On voit que c'est extrêmement sérieux à Québec, là. Et ce matin, je regardais dans le droit, situation en Outaouais, les chirurgies délestées à plus de 80. Puis vous me permettrez d'avoir des doutes quand on utilise les cas non urgents? J'aimerais savoir la définition exacte. Quand c'est pas urgent, là, peut-être que pour les priorités, c'est comme ça qu'il faut faire, là. Il y a des gens qui attendent, puis il y a des gens pour qui c'est pas vital, mais la qualité de vie aussi est absente. Puis ajoutez à cela tous les cas qu'on a échappés depuis un an, qui finissent par se manifester, mais pour qui le pronostic, malheureusement, est plus lourd. Donc, des cas de cancer, on va prendre ça, là. On en détecte souvent un peu trop tard. On aurait peut-être pu les traiter avec plus de succès, mais il y a des examens qui ont été reportés. Bref, l'effet COVID sur les patients non-COVID. Puis c'est important qu'il faut qu'on s'y attarde. Tu sais, moi, je suis d'accord, là, les COVID, puis les traitements, les jeunes, les soins intensifs, parfait. Mais entre-temps, vous avez tous ces gens-là qui attendent pour se faire opérer. Puis là, ajouter à cela les gens qui non seulement attendent pour se faire opérer, mais des gens qui attendent pour être vus par un médecin spécialiste. Il y a 520 000 requêtes en attente pour un médecin spécialiste au Québec, que ce soit un neurologue, un gastro, en fait, toutes les spécialités. En fait, dans les 25 spécialités, il y a une liste d'attente. Fait que non seulement tu attends pour voir ton spécialiste, mais tu vas attendre pour te faire opérer. Il y a toujours eu de l'attente, là. On s'entend que c'est pire. Docteur O'Patterley sera avec nous, sous-ministre à la Santé. C'est elle qui gère les hôpitaux et qui s'occupe, évidemment, de ces opérations de délestage. Puis, tu sais, dans le fond, il y a une question. Puis je vais la télégraphier parce qu'ils vont peut-être pouvoir se préparer. C'est quoi le plan de match? Moi, je regarde en Colombie-Britannique, là, il y a quelqu'un dédié temps plein pour s'assurer, là, faire le ménage des listes d'attente, regrouper qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les spécialités qu'on peut stimuler. Bref, au Québec, là, c'est bien beau, là. Ça, on a pour combien de temps, là? Moi, je parle à des médecins qui me disent, penses-tu que ça va se régler en 12 mois? Ben non. OK, mais c'est quoi le plan de match au Québec pour les non-COVID qui doivent être opérés? Et puis, un mot sur le masque. Bon. Hier, M. Legault, sur Facebook, a émis un communiqué, un message d'éclaircissement. En un mot, là, il fait marche arrière. Puis c'est, je vais vous dire, franchement, là, je le dis souvent, la CAQ, c'est une caractéristique. Quand ils s'enfargent, puis qu'ils tombent, puis qu'ils trébuchent, là, ils n'essaient pas de nous faire croire qu'ils sont debout. Fait que, tu sais, au moins, on va leur donner ça. Le problème, c'est que ça ne tenait pas la route. Tu ne peux pas essayer de vendre quelque chose quand tu n'es pas capable, un, de le justifier, puis de l'expliquer comme du monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masque à l'extérieur? Puis je reprends les propos de notre ami Dr Weiss également, là. Quand vous portez le masque, idéalement, il ne faut pas passer son temps à le mettre et à l'enlever. C'est notre premier critère. Donc, tous les experts vont vous dire à peu près la même chose, là. Il faut porter le masque le plus souvent possible à l'extérieur. Évidemment, vous êtes avec quelqu'un de votre bulle, c'est correct, là. C'est pas nécessaire. Vous êtes tout seul, c'est pas nécessaire. Vous êtes dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de monde autour. C'est pas nécessaire. Vous allez jouer au golf, a dit M. Legault. Vous allez jouer au tennis. C'est pas nécessaire. Vous êtes des conjoints, mais habitez pas à la même adresse. C'est pas nécessaire. Tu sais, mais pouvons-nous faire appel au jugement? Puis quand vous allez faire des courses et que vous vous promenez, je ne sais pas moi, à Montréal ou encore dans un centre commercial, portez le masque, pas juste à l'intérieur de la boutique. Fait que dans le fond, tu portes le plus possible. Et oui, il peut y avoir des gouttelettes. Puis oui, c'est vrai qu'il y a peu de cas à l'extérieur, très peu de cas. Puis je ne suis pas inquiet, là. Je ne pense pas que la police va débarquer avec des paniers, là, puis ramasser tout le monde au tam-tam en fin de semaine, là. Mais c'est juste pour se donner un outil de protection de plus. Puis le docteur Arruda l'a mal expliqué quand on lui dit que lui-même dit « ça a l'air incohérent, mon affaire ». Mais là, tu dis, avant de te présenter un point de presse pour annoncer une mesure qui, tu sais, fait sursauter le monde, peux-tu juste documenter? Quelqu'un disait hier, avec raison, c'est pas la mesure qui est problématique. C'est pas si pire que ça, quand même, là, de se promener avec un masque. Des affaires que je trouve pires, moi, personnellement, là. Mais explique-moi ça clairement. Alors, ça a pris, donc, cet ajustement hier au cours de la journée. Alors, des précisions sur le port du masque à l'extérieur. Et il n'y a toujours pas de contrôle envisagé pour la frontière avec l'Ontario. Ce bout-là, là, ça m'échappe totalement. Je comprends qu'il y a pas mal de va-et-vient, là. Mais t'as ton voisin qui est en pleine pandémie, là, exponentielle. Les cas prennent des mesures. Puis moi, je croise régulièrement des plaques de l'Ontario dans le stationnement de la place Bonaventure. Puis nos auditeurs qui se trouvent dans des secteurs touristiques, Mont-Tremblant, l'Estrie, disent comment ça se fait que c'est plein de plaques de l'Ontario encore. Il semblait qu'il n'y avait pas le droit de se déplacer. Hier, Mme Plante a annoncé un programme, un plan, là, l'aménagement du parc Jean-Drapeau, 1 milliard. Juste le chiffre m'a fait sursauter. Hey, tabarouette, 1 milliard. Je comprends que c'est sur plusieurs années. Mais disons que c'est de l'argent, pas un peu. Là. 970 millions, ça, c'est le budget actuel. Et la Ville va payer le tiers de ça, notamment pour revamper la Place des Nations. Mais là, on retrouve nos amis de Projet Montréal et du Politburo dans leur grandeur. Parce que vous avez la gang d'Oceaga, la gang du groupe CH qui disait un peu, là, avec vos plans de verdissement. Puis là, on a un théâtre qui a été aménagé. Mais il y a des scènes parallèles. Puis là, le plan fait en sorte qu'on va passer de 6 à 4 scènes. Et en gros, là, ce que Oceaga dit, c'est qu'on va perdre 25 % de la capacité d'accueil. Mettons qu'on retrouve une situation normale. Fait que là, ils disent, bien, si on ne peut pas le faire, parce que notre choix premier, c'est le parc Jean-Drapeau, on va aller ailleurs. On va aller à Laval, on va aller à Québec. On va se trouver un endroit où on peut obtenir la même capacité de spectateurs. Et ça va être un enjeu de campagne électorale, ça. Parce que je rappelle que c'est l'ancien maire de Nicodère qui a développé ce théâtre de verdure et qui est utilisé essentiellement par la gang d'Oceaga puis du groupe CH pour des spectacles. Alors, est-ce que le parc Jean-Drapeau va devenir un immense îlot de verdure en limitant les activités comme Oceaga en termes d'espace puis de superficie, si ça devient comme une espèce de stade en plein air, avec de multiples scènes. L'enjeu est quand même intéressant. Mais là où ça devient un petit peu fatigant, c'est le discours de la Ville de Montréal. Moi, la notion, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, là, eh bien, nous allons accompagner le groupe CH. Pardon, accompagner. Vous ne vous entendez pas. Dites que vous allez négocier. Parlez pour que les gens vous comprennent. Dites que vous allez tenter de trouver une entente. Moi, de me faire dire, regarde, ma décision est prise, je t'accompagne pour que tu comprennes ce que je fais. Me fous que tu sois d'accord ou pas. D'ailleurs, en passant, vous savez que la Ville nous avait dit, c'est terminé les consultations bidons, là. On a encore fait le test ce matin sur des consultations pré-budgétaires, là, de la Ville de Montréal. Vous pouvez vous inscrire tant de fois que vous voulez. Fait que moi, quand ils me sortent, là, les résultats de leur grande consultation, de la misère à les croire sérieusement, là, parce que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On peut être à l'extérieur de Montréal. On peut y aller tant de fois qu'on veut. Le site, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de limite. Voilà pour ce qui est des manchettes ce matin. C'est pas mal ça. Puis je vais revenir sur l'immigration. Différence entre Québec et Ottawa. Ottawa qui dit, venez-vous-en les immigrants. On va régler votre statut pour 90 000 d'entre eux. Québec est pleine juridiction là-dessus. Et Québec, c'est long puis ça prend du temps. Je vous donnerai des exemples un peu plus tard. Il est 6h24. Allons voir ce qui se passe sur la 20.